Voilà, donc il y a un certain nombre de semaines, Stéphane m'avait demandé si j'étais d'accord d'amener le message pour aujourd'hui. Et assez vite, j'ai ressenti que je devais parler de la foi. Alors, bon, quand il y a quelque chose qui me vient, en général, je ne proteste pas trop, même si ça me paraissait un peu un sujet bateau. Mais compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers jours, je pense que c'est assez important parce que non seulement ben, je suis malade, j'ai probablement la fièvre, mon ordinateur était malade, il m'avait fait des misères au niveau du PowerPoint qui avait disparu, j'ai découvert ça ce matin. Donc ça fait tellement d'obstacles que ça montre que peut-être que c'est un sujet important. Voilà. Alors, la foi, oui, mais la foi en action. Et on voit dans cette aquarelle un homme de foi. Depuis la rive, il ne voyait rien. Et il marche maintenant au fond de la mer à la recherche de coques et de palourdes pour remplir son sac. Or bon, ça c'est une image que l'on peut voir là sur le golfe là, entre l'île de Léron et puis le continent. Mais maintenant, ben, on va voir ce que la Bible a à nous raconter. Alors, je commence par regarder dans la lettre de Jacques. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Avant de méditer ces versets, ben, l'auteur de cette lettre, Jacques, était le frère de Jésus, Jésus-Christ, Jésus le Messie. Le frère aussi de Jude qui a écrit une autre des lettres qui sont collectées dans le Nouveau Testament. Jacques a aussi été, pendant un certain nombre d'années, le président de l'Église de Jérusalem. Quand je dis président, c'est le vocabulaire de 2024, qui avait probablement un autre titre à l'époque, mais bon, on ne connaît pas trop. Revenons à notre texte. La foi est certes fondamentale, mais il ne faut pas oublier qu'elle s'inscrit dans du concret au quotidien. Et là, l'appel de Jacques par rapport à ces mauvais esprits, c'est un appel qui est parlant. Croire que Dieu existe, bah, c'est un peu court. Donc, à propos de partir de la foi vers l'action, bah, j'aime bien une devise qui est en usage dans la marine nationale de l'armée française. Cette devise, c'est « entendre, c'est obéir ». Ça nous invite à penser que quand on reçoit un appel de Dieu, il est dans notre responsabilité d'obéir. Alors bon, dans la marine française, et puis aussi dans n'importe quelle autre navigation, si on n'obéit pas, ça peut avoir de graves conséquences, non seulement nous mettre en danger, mais en mettre d'autres en danger. Alors là, je vais vous raconter une petite aventure qui m'est arrivée à bord de Phoebus, il y a quelques mois, non, c'était l'année passée. J'étais chef de bord ce soir-là, et puis comme d'habitude, quand on a un nouveau membre qui est à bord, eh bien, pendant un certain temps, on lui confie la barre. Et bien voilà, il était à la barre, puis tout d'un coup, j'étais debout à côté de lui, puis je lui dis, tu vois, les marques sur le lac, il y a une rafale qui nous arrive. Il va falloir que tu l'offres. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un voilier, loffer, ça veut dire donner un coup sur la barre pour amener la pointe du bateau plus face au vent. Il ne se passe rien. Alors, ben, on voit la marque qui s'approche. Alors, je donne l'ordre. Loff ! Toujours rien. La rafale arrive, le bateau se couche, on commence à embarquer de l'eau, et enfin, le barreur donne un coup de barre. Et au bout d'un certain nombre de dizaines de secondes, le bateau se redresse et on a pu reprendre la navigation. Ce qui n'a pas empêché qu'à la fin de la navigation, on a dû enlever les paillots et pomper l'eau qu'il y avait au fond. Voilà, donc ça c'est juste une illustration d'une conséquence quand on reçoit l'invitation, quand on reçoit une indication de Dieu de ne pas obéir. Or, dans la vie quotidienne de nous en tant que chrétiens, il y a pas mal de manières que Dieu a de nous donner des indications que l'on doit suivre par la foi. Il peut y avoir une parole qu'on entend de vive voix par notre oreille. Il peut y avoir une indication qui vient d'une sœur ou d'un frère. Il peut y avoir d'autres manières encore. Et puis, la manière la plus fréquente d'avoir des indications sur ce qu'on doit faire, c'est quand même la lecture de la Bible. Ça reste là. J'ai vu que c'était sur le... On peut revenir en arrière. Voilà. Quelques versets plus loin, toujours dans la lettre de Jacques. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il a été appelé ami de Dieu. Ainsi, Abraham a entendu Dieu et il s'est mis en route. Or, à propos de ce verset, confiance en Dieu, ça me rappelle mes cours de latin. Ça commence à dater, hein, mes cours de latin, mais bon, je m'en souviens quand même un petit peu. Eh bien, le mot latin pour décrire la foi et puis confiance, c'était le même mot. Alors bon, voilà. Ça. Donc, pour nous, confiance et foi, ça nécessite un peu de mettre la même racine. Et on a envie de parcourir un certain nombre d'exemples concrets de vie, de foi. Et puis là, comme... Jacques nous proposait de nous pencher sur Abraham, on va continuer avec Abraham. Alors maintenant, on passe dans une autre lettre, la lettre aux Hébreux. Alors on ne sait pas qui, parmi des proches de Paul, de Tite et de Timothée, a écrit cette lettre aux Hébreux. Il y en a certains qui disent que ça pouvait être Silas, d'autres Barnabas, ou encore un autre propagateur de l'évangile de l'époque. Peu importe en fait qui a écrit cela, mais ça nous est destiné. Alors ici, quelques exemples que j'ai sélectionnés parmi ce chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Donc, j'ai commencé par les versets 17 et suivants, puisqu'on parle d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il était mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » Il pensait que Dieu était capable même de ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Oui, Abraham était un homme mu par une foi active. On peut citer cette marche depuis le nord de la Syrie jusqu'en terre de Canaan, donc l'actuel Israël. Il ne connaissait pas du tout ce pays, mais bon, il y est allé. Des années auparavant, avec son père, il avait déjà marché depuis le golfe Persique à travers toute la Mésopotamie, depuis le sud jusqu'au nord. Puis ensuite, pendant son séjour un peu de nomade dans ce pays de Canaan, il avait attendu le fils promis pendant des années. Puis aussi, sa femme avait fait preuve de foi, malgré le rire qu'elle avait eu quand on lui avait annoncé sa future grossesse. À 99 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et maintenant, Abraham, avec son fils adolescent, il est prêt à l'offrir à Dieu. Et puis pas en théorie, mais dans un acte pratique qui inclut un long voyage à pied, le transport de tout le matériel pour faire le feu, du sacrifice. L'auteur de cette lettre met donc en évidence cet acte de foi comme exemple concret de foi en action. On peut changer de dia. Voilà, on fait un retour au verset 5. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. On ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Étrange cette histoire. Oui, à part Enoch, on ne connaît qu'une seule autre personne qui a été enlevée vers Dieu sans avoir à passer par la mort, c'est Élie. Alors si on parcourt un peu l'Ancien Testament, on a du mal à en apprendre plus sur Enoch que ce qu'on vient de lire. La seule chose qu'on sait, c'est l'âge où il a été rappelé à Dieu, qui était un âge beaucoup plus jeune que tous les autres avant et après. On trouve bien dans les écrits juifs deux livres d'Enoch, mais c'est des livres que les érudits n'ont pas jugés dignes de faire partie des textes sacrés que nous autres, les chrétiens, nous appelons maintenant l'Ancien Testament. Et on comprend dans la fin de ce verset que la foi d'Enoch s'est manifestée en actes. Nous continuons la lecture. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ce qu'il cherche. Donc, ce verset, qui suit celui qu'on vient de lire avant, confirme que la foi implique une recherche de la présence de Dieu, une proximité avec lui, à l'inverse des démons dont nous a parlé Jacques, qui préféraient, eux, se tenir à distance. On peut changer la diable. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 ans. Pendant 3 mois, pardon, par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Donc il faut se souvenir que la décision de Pharaon était que chaque enfant mâle qui naissait parmi les Hébreux devait être éliminé dès sa naissance. La foi d'Amram et de son épouse est une foi en action, une foi en couple solide. Je dirais même plus qu'une foi en couple, c'est même une foi familiale, puisque Myriam, la fille aînée, est aussi impliquée dans la stratégie de ce couple pour sauver Moïse. Donc vraiment, ce sont des actes concrets. D'abord, le bébé est caché, donc caché un nouveau-né qui braille quand il a faim, ça nécessite certaines astuces. Puis, il y a une autre astuce qui est mise en œuvre, l'histoire du panier isolé de l'eau près de l'endroit où la sœur de Pharaon avait l'habitude de venir se baigner pour que le bébé soit adopté par la famille de Pharaon et puis qu'il soit ensuite confié à une nourrice qui se trouvait, on dit, mais par hasard, être justement la maman du nourrisson. Donc là, on voit qu'il y a une foi, mais qui se traduit par des actes concrets, réfléchis, mis en œuvre. Vraiment, pour du concret, c'est du concret. Image suivante.
Oui.
C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombés après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Or maintenant, on est encore plus collectif au niveau de la foi. C'est une foi qui commence par Josué qui écoute le message de Dieu, qui en parle aux prêtres et à tout le peuple. Et puis, ensemble, ils mettent en œuvre la réponse. Les 6 premiers jours, le peuple a accompli un tour de ville, sans faire de bruit. Puis il est rentré au camp. Quand on dit sans faire de bruit, le peuple ne faisait pas de bruit, les prêtres devant, ils sonnaient du chauffard. Et puis le septième jour, le peuple a accompli six tours, tout aussi silencieux que les six jours précédents. Et puis, lors du septième tour, ils ont poussé une grande clameur et les murailles se sont écroulées. Il y a environ 40 ans, peut-être un petit peu plus, j'étais en visite à Jéricho et je suis allé sur des fouilles archéologiques. On pouvait voir les murailles qui étaient tombées à plat comme ça. Et là, manifestement, quand des murailles s'écroulent de cette manière-là, ce n'est pas parce que ça a été miné par des envahisseurs. Et c'est vraiment un phénomène inhabituel, surprenant. Dans cette thématique et cette réflexion par rapport aux sept jours autour de Jéricho, on peut associer comme acte de foi Rahab, la prostituée qui habitait Jéricho, qui avait caché des espions israélites. Sa maison, elle était construite dans la muraille. Il se trouve que c'est le seul secteur de la muraille qui ne s'est pas écroulé. Et si cet acte de foi n'est pas mentionné dans la lettre aux Hébreux, d'abord, il est en relation avec ce dont on parle. Et quand on parcourt la Bible, on voit que cette femme, dans son acte de foi, eh bien, fait partie des ancêtres de Jésus. On peut encore changer de dia. Alors, on va continuer ce voyage en zigzag du chapitre 11 en relisant les premiers versets, qui est un peu la définition que l'auteur donne de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Là, on en a vu quelques exemples. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. On ne voit donc pas qu'avec les yeux. Donc, dans la réalité de notre monde, eh bien, il y a des choses qui se voient, d'autres qui ne se voient pas. Et puis, selon mon interprétation, vous pouvez me contredire si vous voulez, la foi, c'est une sorte de huitième sens qui permet de percevoir la dimension spirituelle du monde. Nos yeux, nos oreilles permettent de voir les trois dimensions physiques de ce monde, mais la dimension spirituelle, c'est avec la foi qu'on peut la percevoir. Donc c'est comme un organe sensoriel supplémentaire qui est à notre disposition. Puis si on ne s'en sert pas, on ne voit pas tout. Mais bon, la foi, selon ce que je vous transmets, ça consiste à agir en fonction de ce qu'on sait. Je vous rappelle ce fameux slogan de la marine française: entendre, c'est obéir. Petite remarque avant de conclure, j'ai encouragé à vivre une foi active, mais je ne prétends pas que les œuvres soient en complément à la grâce manifestée en Jésus pour pouvoir accéder au royaume de Dieu. La grâce révélée à la croix en Jésus est pleinement suffisante. Nos œuvres, c'est simplement une conséquence de la grâce de Dieu. Voilà, maintenant je vais céder le micro pour des témoignages de foi en action lors de cette démarche The Turning avec quelques paroles variées. Je cède la parole à Stéphane.
Peut-être mettre l'autre présentation, s'il te plaît. Voilà, on a participé cette année pour la deuxième fois à la mission Turning. Je ne sais pas qui connaît, qui ne connaît pas. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est plutôt aujourd'hui apporter quelques témoignages et aussi un peu un bilan de cette journée. Ici, on a quelques chiffres sur l'ensemble du projet. Donc Turning, c'est un projet qui se vit au niveau roman, dans différentes villes de Suisse romande, Yverdon, Lausanne, Genève. Des gens sont allés dans la rue à partager l'évangile et à les récolter, prier, bénir des personnes qui étaient prêtes à ça. Et là, vous voyez un peu ce qui a été fait au niveau roman. Donc durant 4 jours de mission, il y a 271 personnes qui ont reçu une prière de bénédiction, donc qui ont accepté qu'on les bénisse. Il y a 65 personnes qui ont pris un engagement avec Dieu, qui ont donné leur, qui ont fait un pas d'engagement avec Dieu. Et sur ces 65, il y en a 52 qui ont donné leur contact en vue d'un suivi. Donc un suivi, on parle ici de discipulat, c'est reprendre contact, marcher avec ces gens, voir qu'ils puissent grandir dans la foi, poser des questions, tout ce travail qu'on appelle travail de discipulat. Et pour Versoix, tu peux mettre la slide suivante, nous étions 5 personnes, donc Jean-Marc, Pierre, Yvonne et Marcus, qui sont malheureusement pas là ce soir, ils sont malades, et moi. Et on est allé pendant, on a fait 3 sorties à Versoix, avec 5 personnes, on a pu faire 12 prières de bénédiction, et une personne a pris un engagement avec Dieu et a aussi laissé son contact pour qu'on puisse reprendre contact et avancer avec elle. Voilà un peu les résultats d'une certaine manière, mais au-delà de ça, je pense que on va maintenant donner la parole à nous trois, on va dire juste quelques mots, comment on a vu la grâce de Dieu dans ces contacts qu'on a vécu et comment on a aussi vu la main de Dieu et l'action de Dieu dans ces rendez-vous. Alors, je ne sais pas qui c'est que tu veux. Tu veux, Jean-Marc, donner directement ton témoignage.
Alors, pour moi, c'est assez court. Vraiment, j'ai obéi dans la foi pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, j'ai rencontré, mettons, une douzaine de personnes à qui j'ai pu annoncer que Dieu les aimait, puis il y avait des projets bienveillants à leur égard. Et puis, aucune de ces personnes n'a donné suite, donc je n'ai pas pu aller plus loin pour commencer à poser des questions, t'agnasser un peu. Donc, à ma connaissance, ça s'est malheureusement, pour ces personnes, arrêté là. Mais je crois que j'ai été à la place que Dieu m'assignait et j'ai rencontré les personnes que je devais rencontrer, et peut-être que après une autre personne qui les interpellera, peut-être que je me souviens, on m'avait déjà parlé, qui sait. La grâce est toujours ouverte aussi longtemps qu'on est vivant.
Pierre, je te donne la parole, s'il te plaît. Donc Pierre, c'était la première fois cette année, donc les autres, on avait déjà fait l'année passée. Une personne qui s'est lancée dans l'aventure cette année, qui nous dit quelques mots.
Alors, d'abord, je voulais vous dire, ce matin, je me réveille tard, et puis je lis dans mon passage du jour, « Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. » Alors, je me suis posé... J'ai trouvé que, c'était approprié, parce que je n'avais pas préparé grand-chose. Alors je me suis posé la question, mais finalement, on doit sortir, pour sortir, on doit mettre des chaussures, d'accord, il faut se revêtir, faut revêtir dans nos pieds, parce qu'il faut aller, vers les gens, etc. Mais le zèle, comment est-ce qu'on va l'obtenir? Alors là, j'ai pensé à un autre passage, je m'excuse, j'essaie de ne pas être long, mais j'ai pensé à ce passage des Romains. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel? C'est une sorte de cercle un peu, fermé. On ne sait pas comment rentrer là-dedans. Je trouve toujours, ça m'a toujours énormément frappé. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors, j'avais préparé encore d'autres choses, mais pour moi, c'est ça. Il y a la nécessité, une bonne nouvelle, je veux dire, c'est pas une bonne nouvelle si elle n'est pas annoncée, parce que finalement, il y en a tellement de mauvaises qui sont annoncées, alors ça sert à quoi ? Alors nous, on est évangélique, et puis on n'annoncerait pas la bonne nouvelle. C'est vraiment, à mon avis, c'est quand même quelque chose qui doit être important pour nous. Et je pense que même quand on sort de chez nous, il faut avoir cette idée, voilà, je sors, je mets mes chaussures, eh bien, il va peut-être avoir une occasion d'annoncer à la caissière de la Migros, je ne sais à qui, mais je veux dire, l'annonce. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'il faut être très certain qu'on est envoyé. Bon, moi, j'ai été dans un cocon où on m'a bercé avec le verset de Actes 1, 8. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et on est envoyé. On est envoyé comme témoin. C'est vraiment pour ça qu'on est. Alors maintenant, je vous parle des contacts que j'ai eus. Donc, oui, je dis, le turning, c'est ça, annoncer l'évangile avec la conviction d'être envoyé et qu'une multitude autour de nous n'en a pas entendu parler. Ça, il faut aussi être... vraiment, comme le dit ce passage des Romains, il y en a une multitude qui ne connaissent rien à ça, qui n'ont jamais entendu parler de la bonne nouvelle. Alors, la première personne dont je vais vous parler, c'est typique. C'est un jeune à la gare avec son chien. Jeune, vraiment. Et quand je lui annonce les deux bonnes nouvelles, donc que Dieu nous aime et qu'il a un plan pour nous, selon le protocole du turning, hein, vraiment, il me dit, ah, mais ça c'est bien, vraiment, il accueille ça à bras ouverts. Vraiment, vraiment. Hein. Et puis, quand je lui dis... Oui, mais vous avez une certitude aussi. Où est-ce que vous allez après la mort, je veux dire. Ah, ben ça, si je savais, hein, ce serait bien, quoi. C'est un peu comme ça qu'il a réagi. Et puis après, bon, je ne lui impose pas les lectures des versets, malheureusement, parce qu'il se déclare musulman. Alors bon, moi, respect, je ne force pas. Mais j'ai quand même pu lui parler... de ma certitude qu'on a un Dieu créateur qui nous veut le meilleur pour chacun. Je lui ai parlé aussi qu'il y avait des promesses même pour... alors, je ne sais pas s'il est ismaélite, parce que tous les musulmans ne sont pas forcément ismaélites, hein, je ne sais pas si vous savez ça, mais je veux dire, même le fils de la servante Agar a reçu des promesses de la part de Dieu, et en fait, les promesses de Dieu, on le sait, s'étendent à toutes les nations. Ce qui m'a touché avec lui, je ne me souviens plus de son contact à noter, non ? Parce que je ne me souviens plus de son nom. Peut-être sur le moment, j'avais son nom. Mais c'est vraiment, je me souviens encore, je suis extrêmement touché par la reconnaissance sincère qu'il m'a exprimée en me quittant. Et ce qui est assez dingue, c'est que hier matin, en allant chez Isolde et Alain, Adrien Lachenal devant Aldi, je le vois avec son chien. Donc je me dis, peut-être que je devrais aller une fois vers 6h, c'était la même heure à peu près. Peut-être qu'il prend le train régulièrement vers les 10h, comme ça peut-être que je pourrais lui reparler, je ne sais pas. Voilà. Et puis alors, un autre contact avec Frédéric, homonyme, mais pas lui. Alors là, on peut aller plus loin avec ce que propose le turning dans le petit protocole. Bien qu'il me dise au début qu'il est réticent face à la religion. Alors bon, je lui explique un petit peu ce que je pense être différent, disons, dans ma foi par rapport à une religion. Bon, voilà. Mais après, on peut lire les versets de la Bible. Alors, c'est utile de les rappeler. Donc, ces versets, ça parle du péché, ça parle du péché qui conduit à la mort, ça parle du salut, le seul salut qui est en Christ. Donc, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, j'ai pu lire les trois versets. J'ai pu lire la bénédiction qui allait sur lui. Il a écouté très, très respectueusement. Et après, alors ça, c'était ma conviction. Je ne voulais pas lire avec lui à haute voix, moi, lire la prière d'engagement. Je lui ai donné le petit papier pour qu'il la lise. Et il a pris vraiment tout le temps de la lire. Et là aussi, il m'a quitté avec beaucoup de reconnaissance. Donc, on peut prier pour Frédéric. Dans le seul qui a laissé son contact, je ne sais pas si... Donc, moi, j'ai eu après, très à la fin, un long contact devant le Boléro avec un David. Un contact vraiment très, très ouvert, très profond aussi. Quelqu'un qui a une vie très dure, très douloureuse, très, vraiment à tout, mais voilà, il était d'accord, on a échangé les contacts. Alors, je l'ai invité, parce que peu après, on avait notre première rencontre, non, on avait une rencontre homme, je l'ai invité à là, mais il n'a pas répondu. Alors là aussi, on peut prier pour peut-être que je le relance, pour qu'il vienne à une rencontre d'homme. Voilà, merci beaucoup.
Merci, Pierre. De mon côté, deux choses. Tout d'abord, une première, comment j'ai vu l'action de Dieu aussi concrètement. Parce que des fois, Ternier a toujours cette idée, c'est que Dieu prépare et nous, on va après. Et puis finalement, on récolte toute la préparation qui a été avant. Et on a rencontré une dame, c'était dans le quartier de Montfleury, j'étais avec Marcus. Et voilà, on lui parle et puis on s'est aussi présenté qu'on était une équipe de chrétiens évangéliques. Et puis après, elle s'est ouverte, contrairement à d'autres où on a dit ça, ils sont plutôt fermés. Elle, ah, évangélique, alors moi je suis catholique, ok, bon, elle a tout de suite voulu mettre aussi un peu la différence en évidence. Mais on a pu lui parler de sa foi, de la foi, et puis elle aussi, la première chose qu'elle nous dit, ah, ok, ouais, c'est bien, mais vous savez, aujourd'hui, je suis un peu fâché avec Dieu, elle nous dit. Alors, on lui dit, ok, donc on n'a pas entré dans le détail pourquoi, on a resté là, mais on a pu lui dire, bien, écoutez, c'est pas un problème que vous soyez fâché avec Dieu, mais après, on a tout de suite dit, mais je n'ai pas quitté la foi, je crois que. Je vais toujours à l'église de temps en temps, mais je suis plutôt un peu fâché avec Dieu, avec ce que j'ai vécu. Alors, on lui a plutôt partagé ce qu'elle peut faire. Et qu'elle aille à Dieu avec ce qui la fâche, et puis qu'elle lui dise, comme dans les Lamentations aussi, hein, dans les psaumes. Et puis, ce qui était beau, où j'ai vu vraiment aussi l'œuvre de Dieu, parfois rencontre des gens, elle m'a dit, mais c'est marrant que vous me rencontriez aujourd'hui et qu'on me parle de ça, parce que je sais, j'ai des amis aussi qui prient pour moi actuellement pour que je revienne à la foi. Et il y a vous aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un peu quelque chose autour de moi qui bouge actuellement. Et nous, on était là, voilà, une étape. Et puis ce qui était marrant, on n'est pas allé non plus pour faire de la pub pour notre église, ce n'est pas le but non plus. Mais elle nous demandait, ah, vous êtes dans quelle église? Puis elle nous dit, moi, j'ai plus tellement la messe, passé le dimanche matin, ça m'embête de me lever et tout. Puis après, il nous dit, puis à vous, c'est à quelle heure? J'ai dit, nous, depuis pas longtemps, c'est à 5 heures le soir. Ah ouais, c'est pas mal, ça, vous êtes où? Donc, on a quasiment pu lui faire de la pub pour notre église, pour notre horaire, etc., sans qu'on... Les questions sont venues. Et alors, je ne l'ai pas vue depuis, mais on a pu aussi prier avec elle, l'accueillir, elle a levé ses bras, hein, comme, voilà, elle attendait quelque chose de Dieu dans son attitude. Une personne qui n'avait pas quitté la foi, je ne pense pas, mais qui avait besoin peut-être aussi d'être encouragée par ce contact qu'on a eu. Et puis un deuxième contact qui m'a aussi le plus touché par rapport aussi à la foi et à l'ouverture à la foi, c'était dans le même quartier, à Montfleury, avec un jeune musulman. Alors voilà, là, j'ai contacté, j'ai une bonne nouvelle, que Dieu vous aime. Ah ouais, d'accord, je le sais, il me dit comme ça. Puis, et puis qu'il a des projets pour vous. Ok, puis après il écoutait. Puis tout de suite il me dit, moi je suis musulman, je crois aussi et tout. Et puis on lui a pu parler de l'évangile. J'ai aussi, il me disait aussi, on le sait un peu, hein, des fois les musulmans ils disent ouais, moi j'essaie de bien vivre. Et puis peut-être que quand j'ai demandé est-ce que vous savez où vous allez si vous mourrez, il a dit ouais, je pense, j'espère. Si j'ai une bonne vie, peut-être que j'irai avec Dieu, etc. Donc il y avait un peu cette incertitude. Et là j'ai pu dire bien, avec l'évangile, comme dans les versets, il y a une assurance que si on accepte Jésus, on est sauvé. On n'a pas besoin de faire des œuvres. Les œuvres suivent, les conséquences, comme tu l'as dit, mais ce n'est pas ça qui sauvait. Donc il écoutait, il dit ah, c'est intéressant, ok, mais je vais voir. Voilà, il voyait que ça tournait dans sa tête, et puis très ouvert, très respectueux, on a pu prier avec lui, prière de bénédiction, et on l'a quitté par la suite. Donc un jeune, voilà, très ouvert et très croyant, je pense aussi, dans sa foi musulmane. Et on a aussi un peu pu lui montrer la différence aussi, peut-être, qu'il y a entre une foi basée sur l'évangile de Jésus et puis la foi aussi qu'ils ont leur Dieu, les musulmans. Voilà deux exemples. Donc, pour nous, c'était une belle expérience cette année. Et je vous invite aussi à penser à nous et à prier pour l'équipe, pour la suite aussi. On souhaite poursuivre ça maintenant. On souhaite créer un groupe, on parle de groupe missionnel. On souhaite, on se retrouve la semaine prochaine pour voir un peu comment on continue, mais on souhaite partir avec cette expérience. Voilà, on est 7 ou 8 personnes qui avons fait ça sur les 2 années. Est-ce qu'ensemble on peut aller plus loin maintenant et faire des actions comme ça dans la rue? Ça peut être peut-être d'autres, plus spécifiques à d'autres moments. Mais on a des outils aujourd'hui, je crois, que, et je peux le dire, moi je ne suis pas la personne du tout qui... D'une part, qui aime me faire arrêter dans la rue et qui va facilement comme ça interrompre les gens. Mais là, on allait avec une... on n'allait pas seul, on était déjà en binôme. Donc ça, c'est déjà une force. Et donc, dit turning, ça marche. Hein. C'est pas la recette, mais c'est bien réfléchi. Je pense qu'il y a de la réflexion, comme dans le projet des Josué. Hein, ils ont bien réfléchi et tout. Et il y a Dieu qui est avec. Je sens vraiment Dieu qui est avec. Et là, quand on allait, on n'était pas seul. Et puis, on allait assez direct au but. Et des gens étaient prêts à entendre. Plusieurs personnes étaient prêtes. On a eu 12 prières de bénédiction. On a peut-être une 20aine de contacts qui ont dit non merci. Hein. Donc, on va être honnête, ce n'était pas tous oui, priez pour nous. Il y a aussi des gens qui ont dit non merci, ça ne m'intéresse pas. Mais on a pu aller où des rendez-vous étaient vraiment conduits par Dieu. On en a rencontré. Sans grande révélation non plus. On n'essaye pas non plus. Je sais qu'il y a des méthodes d'évangélisation parfois où il y a des révélations qui sont demandées à Dieu. Voilà, révèle-moi quelle personne tu veux que je contacte. Et puis ça peut être des fois très concret. Voilà, il me semble que c'est une personne avec une veste bleue, etc. Donc il y a des qui vivent des belles expériences aussi comme ça, plus ciblées. Nous, c'est un peu, on y allait et puis... On y va pas, qu'est-ce que tu penses? Bon, on y va, il me semble que celui-là est disponible, on y va. Et puis on y allait un peu léger. Dieu a béni, quoi, vraiment. Et ces 12, je pense vraiment, ces 12 prières de bénédiction, au-delà de... Hein, des fois, on aime bien que les gens se convertissent, bien sûr, on a à cœur ça. Mais simplement de bénir une personne, c'est de permettre à Dieu de continuer d'agir. La puissance de Dieu, ben, quand on bénit quelqu'un qui accepte une prière de bénédiction... Il accepte à un moment donné que Dieu puisse continuer son œuvre en lui. Et puis on était peut-être une étape, c'est certain, jusqu'à une étape sur le chemin qui les rapproche de Dieu de plus en plus. Quoi. Donc voilà ça, l'expérience qu'on a vécue. Et puis je peux qu'encourager notre foi aussi, ou si on met ça en place. Donc ce n'est pas un club fermé. Et ce que je veux aussi dire, là on l'a mis en place, c'est pour ça que j'ai précisé, toutes de l'ILG vers soi. Turning, par définition, n'est pas un projet d'église, c'est un projet de chrétiens d'une région qui ont envie de partager l'évangile. Donc on avait fait un peu de la pub, mais bon, là on était uniquement notre église, mais on peut s'imaginer aussi que d'autres personnes à un moment donné qui ont à cœur ça, à vers soi, peut-être d'autres églises, peut-être des gens de l'église ici, on ne sait pas, mais que ce soit un projet qui est pas directement lié à l'Église et que d'autres ressources, d'autres personnes aussi pourraient nous rejoindre à l'avenir aussi. Voilà.